autres trésors de la préhistoire parus chez Talendier, eh bien vous peignez quelque sorte une sorte de paradis perdu, hein, une époque où l'homme vivait en parfaite harmonie avec la nature, avec ses semblables aussi. On va y venir dans un instant, mais tout d'abord, juste un mot, Jennifer Kerner, sur ce titre, La Dame à la Capuche. C'est qui, La Dame à la Capuche?
La Dame à la Capuche, c'est la Joconde de la préhistoire, en fait. Ah. C'est la femme la plus connue du Paléolithique. Pourquoi elle est connue? Tout simplement parce que c'est un des rares portraits que nous avons. Normalement, les figures anthropomorphes, c'est plutôt des femmes toutes nues, très voluptueuses. On retient surtout leur courbe généreuse. Et elle a vraiment un regard perçant. Alors, elle n'a pas de bouche, certes, mais elle a beaucoup de choses à nous dire. Et du coup, elle est devenue complètement emblématique.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de plus spécifique peut-être au rapport entre les êtres humains à l'époque, hommes, femmes, enfants, etc., qui ne répond pas aux clichés qu'on peut avoir aujourd'hui? Vous dites que finalement c'était beaucoup plus pacifique que les clichés qu'on peut avoir en tête?
Alors, déjà, forcément, on est sur des groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont des démographies réduites, donc on n'est pas sur des groupes guerriers. Hein. Chacun a son territoire, donc on n'a pas besoin de se faire la guerre pour trouver à manger ou s'épandre. Il y a de la place pour tout le monde au Paléolithique, vraiment. Et au sein même des groupes, on est aussi... Alors, attention, sur quand même... Il ne faut pas aller non plus vers un Éden où tout le monde vivrait en égalité. Mmh. Très probablement que non. Hein. L'ethnographie nous montre plutôt que chez les groupes à faible démographie, la hiérarchie est marquée, il y a des grandes règles, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde.
C'est quoi ces principales règles?
Alors là malheureusement, je n'y étais pas. Et puis surtout, ça changeait beaucoup d'un groupe à l'autre, probablement. Donc je ne peux pas vous dire si les femmes dominaient ou ce genre de choses. Mais en revanche...
Alors, vous écrivez quand même que les femmes sont... quasiment les égales des hommes, ou les égales des hommes,
ah non, c'est écrit. Alors déjà, quand on parle d'hommes et de femmes, on parle de sexe biologique, et il faut bien comprendre que là, on évolue sur une question de genre, en fait. Est-ce qu'il y avait une égalité entre les genres? Mais moi, déjà, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y avait des genres? Probablement, mais est-ce qu'il y en avait deux? Probablement pas. En fait, dans beaucoup de sociétés, on a au moins trois genres, avec un genre neutre, qui est généralement le genre des chamans ou des grands officiants, des gens qui correspondent avec l'invisible. Donc oui, les hommes, les femmes et les neutres, et peut-être plus de catégories encore, avaient chacun leur place en tout cas. Et par exemple, moi j'ai fait une fouille magnifique au Brésil, où j'ai fouillé la tombe d'un épileptique, grave épileptique, qui a toutes les traces sur son squelette, et qui a été magnifiquement enterré, et qui a forcément eu une place prédominante dans son groupe. Donc le handicap mental, physique, la jeunesse...
n'étaient peut-être pas les mêmes.
Voilà, il faut vraiment oublier toutes
ces règles-là. Ouais. Dans votre livre, vous illustrez tout avec des dessins, et non pas avec... pourquoi?
C'est pas moi qui illustre.
Ah oui, non, bien sûr, je dis vous, mais vous avez travaillé avec un illustrateur, donc, qui fait de très très beaux dessins, et en parlant de dessins, il y a un chapitre qui est réservé, et vous expliquez qu'il y avait des dessins donc en mouvement déjà à l'époque, et peut-être même les prémices du cinéma à la préhistoire.
Oui, oui, on a des très très belles choses, notamment ce qu'on appelle des tomatropes. Ce sont des rondelles en ivoire, et quand vous les mettez sur un fil, vous les tournez très rapidement, les deux images se superposent et ça crée une scène animée. Donc on a des petits animaux qui vivent des aventures, etc. Donc oui, oui.
Et à l'époque, donc, les êtres humains faisaient tourner ces images, se faisaient leurs propres projections.
Probablement, oui, bien sûr.
Probablement. Ou est-ce que c'est nous qui les reconstituons des siècles après?
Ça semble avoir été créé pour ça.
Une soirée cinéma, en fait.
Il y a probablement dans les grandes soirées cinéma.
Ah oui, c'est ça. Juste un mot par rapport, moi aussi, à votre autre activité de, je veux dire, youtubeuse aussi. On peut dire ça comme ça, puisque vous êtes sur YouTube. Vous êtes.
Votre chaîne s'appelle Boneless Archaeology.
Voilà, et vous êtes particulièrement suivi. Et c'est assez étonnant de voir à quel point l'histoire, en général, eh bien, plaît sur YouTube. On le voit en effet, vous, avec l'archéologie, puis en plus vous maniez aussi des thématiques sur la mort, beaucoup, vous faites des visites, mais on voit aussi, je sais pas, des actualités sur le Moyen-Âge, des choses comme ça. Vous expliquez que sur YouTube, l'histoire marche autant?
Parce que les gens ont envie de comprendre d'où ils viennent, et le passé peut tellement éclairer le présent, et on est tellement sur un présent en mutation profonde, qu'on a envie de savoir comment ça se passait avant, comment ça se passe ailleurs. Donc je pense effectivement que l'histoire a beaucoup à nous dire.
C'est vraiment les taux.
Oui, parce que c'est vrai que ça peut éclairer le présent, mais aussi le présent peut éclairer le passé, dans le sens qu'une chose qui m'intéresse beaucoup dans la préhistoire, c'est comment les chercheurs ont donné une interprétation à la préhistoire, par exemple sur les rapports hommes-femmes qu'on disait avant. C'est après, avec les moyens qui se sont développés, les radiographies qu'on a fait sur les ossements, et etc., qu'on a compris que les femmes n'avaient pas du tout les rôles qu'on imaginait dans la préhistoire, qu'on apprenait voilà, il y a 20, 30, 40 ou 50 ans.
Oui, et, oui. En fait, toute l'évolution médicale, scientifique nous aide énormément, même sur l'alimentation. Par exemple, on avait l'idée d'une alimentation très carnée. Et en fait, en regardant le tartre dentaire de nos ancêtres, on s'aperçoit qu'ils mangeaient des tiges de nénuphar, des céréales sauvages, enfin voilà.
Et les femmes étaient beaucoup plus guerrières que l'image qu'on pouvait en avoir, c'est ça, que le cliché qu'on pouvait en avoir.
On a un exemple au Pérou, d'une femme qui s'est servie de ce qu'on appelle un propulseur. Donc le propulseur, c'est un instrument qu'on met derrière sa lance pour augmenter la portée du jet et la puissance. Donc effectivement, elle a une lésion à l'épaule qui montre qu'elle a beaucoup fait ce geste. Bon, ce geste, il est probablement fait pour chasser du grand mammifère, en fait. Hein. Donc parler de guerrière pour le paléolithique, c'est un petit peu trop tôt. On peut parler de guerrière à l'âge du fer, par contre, ça, on en a plein d'exemples.
Et alors, c'était la Fashion Week à Paris. Et du coup, je vous lis, hein, si nos ancêtres ont décidé de se vêtir, ce n'est donc pas tant par obligation que par choix, même par goût. Oui. C'est ça que vous expliquez aussi dans ce livre.
Ah oui, oui, il y a plein de gens qui vivent tout nus, hein. Enfin, qui vivaient tout nus. De plus en plus, ces populations disparaissent, mais en s'enduisant de graisse de phoque, par exemple, on peut très bien vivre dans la nature et marcher pieds nus. Il y a une véritable volonté de s'identifier. Et c'est pour ça qu'on va se parer dès 61 000 ans avant notre ère. On a l'aiguille, déjà. Donc, on a possibilité de faire des vêtements très ajustés.
Des broderies, vous parlez de broderies.
Et des broderies, bien sûr, des bijoux. Pas uniquement, d'ailleurs, ils ont beaucoup plus de bijoux que nous. Ils ont des jambières, des couronnes, enfin voilà, oui, vraiment, et ça a une identité importante. Quoi.
Eh bien, merci Jennifer Kerner d'être venue nous faire découvrir la Dame à la Capuche et tous ces autres trésors de la préhistoire chez Talendier. Rappelons aussi que vous êtes chercheuse associée au Musée de l'Homme de Paris, bien sûr, et voici un